Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est 18h.
Le port du masque, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande.
Simple recommandation pour le moment, formulée par le ministre de la Santé Olivier Véran en déplacement dans les Yvelines, mais on s'y prépare dans la préfecture du Nord. Et lors du dernier conseil des ministres de l'année, il n'était pas vraiment question de vacances. Le gouvernement en position de combat face à l'épidémie.
Elle incarna à l'écran celle qui devint le symbole de la lutte contre les violences conjugales. Muriel Robin sur Europe 1 rend hommage à Jacqueline Sauvage, décédée à l'âge de 72 ans.
Les Jacqueline Sauvage, il y en a plein en France. Et on ne fait pas assez pour elle. Je le dis à Jacqueline, sa souffrance n'aura pas servi à rien et qu'on continuera de se battre.
Dans l'actualité de ce mercredi 29 juillet, des brigades citoyennes pour prévenir les feux de pinède dans le sud-ouest.
Le rugby français au bord de la faillite.
Et les fruits et légumes made in France, toujours plus chers. L'INSEE chiffre la hausse à 15% au mois de juin.
Fabriqués en France, coûtent plus cher. Nous avons des salaires plus élevés, des normes sanitaires plus élevées, des normes environnementales plus élevées. Donc ça représente une partie des surcoûts.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, s'explique sur Europe 1. La Bourse de Paris en hausse de 0,60% à 4 958 points.
La météo, attention, pic de chaleur à venir. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir à tous. Prudence à cause de la chaleur à partir d'aujourd'hui et surtout pour les deux jours à venir. En Vallée du Rhône et sur l'agglomération lyonnaise, les départements sont placés en vigilance orange canicule avec des valeurs attendues demain aux alentours de 39 degrés et encore plus chaud dans la nuit de jeudi à vendredi et des maximales pour vendredi supérieures à 40 degrés, proches des records atteints en juillet 2019.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagirel, François Claus.
Porter un masque, y compris dans la rue et dans tout l'espace public, le ministre de la Santé, Olivier Véran, en déplacement dans les Yvelines cet après-midi, le conseille, le préconise. Une mesure qui pourrait donc s'appliquer localement, comme c'est déjà le cas dans 4 communes de Mayenne, en fonction de la situation sanitaire régionale. Pour le dernier conseil des ministres de l'année, ce matin à l'Élysée, ce n'était pas vraiment l'ambiance d'un dernier conseil avant vacances, comme c'est le cas habituellement à cette époque de l'année, non. Adrien Beck, un gouvernement qui n'a pas d'autre choix que de s'afficher mobilisé dans cette guerre contre l'épidémie.
Oui, un gouvernement qui reste sur le qui-vive, c'est toujours la formule consacrée, mais c'est vrai que cette année, elle prend un autre sens, car si la politique s'arrête avec l'été, il n'en est pas du tout de même pour la crise sanitaire, a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Il n'y a pas de trêve pour l'épidémie et pour le virus. Et donc il y a une mobilisation absolue. Il y a un état de veille et de vigilance permanente.
En clair, le gouvernement est prêt à se réunir physiquement ou à distance pour de possibles conseils de défense pour annoncer de nouvelles mesures contre le virus. Et dès cet après-midi, vous l'avez dit, depuis les Yvelines, et sans que ce soit coercitif, Olivier Véran a recommandé le port du masque à l'extérieur.
Si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande.
Et à propos de masque, selon nos informations, le gouvernement envisage de le rendre obligatoire dans le Nord qui jouxte la Belgique, là où l'épidémie rebondit. Et puis, autre mesure envisagée, une possible réquisition des laboratoires d'analyse franciliens qui ne font pas de dépistage et qui sont dans le collimateur du ministre de la Santé.
Adrien Beck du service politique d'Europe.
Alors qu'est-ce qui pousse le gouvernement à renforcer son dispositif antivirus?
Eh bien, il y a de fait une multiplication de signaux depuis le déconfinement, signaux négatif, Pauline Jacquot.
Oui, d'abord le nombre de foyers épidémiques. 228 sont aujourd'hui actifs un peu partout en France. À Quiberon, par exemple, l'ARS vient d'annoncer que le nombre de malades a doublé. 72 personnes sont touchées et il y a un fort potentiel de transmission. Progression du virus aussi en Loire-Atlantique, en Gironde, en Mayenne. C'est maintenant qu'il y a un risque, selon Christine Rousiou, virologue à l'hôpital Necker.
Les points de redémarrage de l'extension du virus, c'est dans des lieux de vacances. Les gens sont plutôt à l'extérieur, dans les rues piétonnes, dans les marchés ouverts. Il y a presque un nouveau risque, en quelque sorte, dans la mesure où il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui sont infectés. Or, les jeunes sont plus souvent asymptomatiques. Donc, le risque est encore plus masqué, si je puis dire, que précédemment.
Le virus circule parce que nous circulons cet été et il est présent en ce moment, rappelle-t-elle, partout en France.
Merci Pauline Jacquot.
Et dans un quart d'heure, je recevrai Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche. On va parler notamment du vaccin contre le Covid. Où en est-on précisément? Elle était devenue le symbole des violences conjugales. Jacqueline Sauvage est décédée à l'âge de 72 ans, François.
Jacqueline Sauvage, condamnée, rappelez-vous, à 10 années de prison pour avoir tué de 3 coups de fusil son mari qui l'a frappé depuis 47 ans. Après 4 années d'emprisonnement, elle fut finalement graciée par le président Hollande en 2016. Le président Hollande, qui se dit ce soir très ému, ajoutant « Jacqueline Sauvage est décédée chez elle et non pas en prison où elle n'avait pas sa place ». Sur Europe 1, dans le journal de 12h30, l'actrice Muriel Robin, qui incarna avec tant de cœur Jacqueline Sauvage à l'écran dans un téléfilm qui fut regardé par 8 millions de téléspectateurs sur TF1, était émue et révoltée et souhaitait avant tout qu'on retienne la leçon de souffrance de Jacqueline Sauvage.
Jacqueline Sauvage est devenue un peu le porte-drapeau des violences conjugales avec quelque chose. Vraiment, son dossier a pu faire bouger les choses. La question qu'il faut se poser, c'est que ce soit Égérie, malgré elle, ou un vrai combat comme celui de Gisèle Halimi, qui prendra le relais. En tout cas, sa souffrance n'aura pas servi à rien. En revanche, la souffrance de beaucoup d'autres, de ses victimes, par exemple, qui sont plus de 300 par an, l'alerte va servir à grand-chose. En tout cas, il n'a pas l'air d'être entendu. Les Jacqueline Sauvage, il y en a plein en France. Et dans le monde, il y en a plein. Et on ne fait pas assez pour elle. On demande 1 milliard, on ne nous le donne pas, on sort des milliards pour Renault, pour ceci, pour cela. Là, ce sont des vies, des cadavres. Qui les aura sur la conscience? On vit très mal. Et donc, on a avancé avec Jacqueline Sauvage, parce que le sujet est Jacqueline Sauvage, mais on recule avec d'autres choses. C'est très, très dur. Donc, je vais continuer à me battre, et je ne le dis pas pour parler de moi, mais je le dis à Jacqueline, et à ses enfants, et à ses filles, et ses petits-enfants, que sa souffrance n'aura pas servi à rien, et que là, en plus, pour tout ça, pour mourir 3 ans après avoir connu la paix, ou très peu de temps après, on continuera de se battre. Mais malheureusement, il y en a encore beaucoup, 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 beaucoup. Besoin.
Voilà ce que disait Muriel Robin tout à l'heure en direct sur Europe 1 dans le journal de 12h30. Le parquet de Bourg-en-Bresse a ordonné l'ouverture d'une enquête après dépôt de plaintes de femmes gendarmes pour des faits de harcèlement sexuel au sein d'une brigade de gendarmerie de l'Ain. Comme c'est l'usage, une enquête dite de commandement interne à la gendarmerie sera également effectuée.
Et si c'était un simple mégot qui avait embrasé la forêt de pins des Landes, détruisant 300 hectares à 60 km au sud de Bordeaux?
C'est l'hypothèse sur laquelle travaillent actuellement les gendarmes qui recoupent des témoignages. Dans un paysage désormais lunaire de forêt détruite, les pompiers qui ont maîtrisé le feu ont quitté la zone, mais c'est tout un dispositif de surveillance associant les habitants des villages voisins qui se met en place, Jean-Jacques Héry.
Oui, c'est indispensable, hein, François, car il faut prendre le relais de ces pompiers qui vont quitter le théâtre des opérations peut-être dès ce soir ou demain, considérant que l'incendie est éteint. Tout s'est organisé ce matin à la mairie de Lethuzan lors d'une réunion entre élus, pompiers et professionnels de la forêt. Éric Suzanne, sous-préfet de Langon.
La surveillance du feu, elle va s'organiser sous l'égide des maires pendant le jour et aussi d'ailleurs en partie de nuit, avec du personnel volontaire, du personnel de mairie. On craint la reprise de feu. Les incendies les plus graves interviennent sur des reprises.
Les 3 maires des villages concernés, Lethuzan, Louchâtes et Saint-Symphorien, doivent mettre en place et coordonner une importante logistique. Et pour ça, ils ont besoin du concours de la société civile. Gilbert, par exemple, participera à des rondes citoyennes pour scruter les zones encore fumantes.
C'est bien la moindre des choses, de notre devoir d'être un petit peu solidaire et d'essayer de rassembler un petit peu quelques bonnes volontés pour prendre la relève, être un petit peu sentinelle de notre territoire, de jeter un coup d'œil.
Bien malheureusement, c'est pas un geste qui est spontané, instantané, ça vient pas à l'esprit systématiquement. Il faut aller chercher les gens un petit peu.
Le geste citoyen, c'est ça aussi.
Et cette surveillance active, elle durera entre 10 et 15 jours minimum.
Un reportage signé en Gironde, Jean-Jacques Héry, travail d'autant plus indispensable sur le terrain que la trop longue absence de pluie sur tout notre territoire génère une sécheresse qui peut provoquer des incendies et qui touche désormais 64 des 95 départements. Un audacieux cambriolage en plein cœur de Paris chez un citoyen britannique vivant au cœur du quartier latin, visiblement bien renseigné. Les cambrioleurs sont entrés dans l'appartement en pleine nuit grâce à une fenêtre ouverte. Pendant que le propriétaire dormait, ils sont repartis, tenez-vous bien, avec 8 tableaux de maître, dont 2 signés du très grand peintre Pierre Soulages, un butin qu'on estime entre 1 et 2 millions d'euros.
Il est 18h08. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagiral.
Vous l'avez remarqué sur mon marché, pourquoi les fruits sont-ils si chers en ce moment? La réponse dans un instant, à tout de suite.
La suite du journal, François-Claude Thierry-Dagiral.
Oui, on l'a tous ressenti hein, ces derniers jours en faisant son marché. L'INSEE le confirme, les fruits et légumes ont augmenté de 15% pour le mois de juin dernier.
Et cela, Élise Dangean, s'explique en partie par les conséquences de l'épidémie, mais pas seulement.
Oui, l'épidémie qui avait mis un gros coup d'arrêt aux importations de fruits et légumes, d'abord faisant automatiquement grimper les prix. Mais ça y est, dit Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, le niveau des importations est complètement revenu à la normale. Sauf que tous les effets de la crise sanitaire ne sont pas encore derrière nous, explique son président Laurent Grandin, d'autant qu'ils sont cumulés aux effets climatiques.
On a eu à la fois des problèmes de main-d'œuvre, d'organisation des chantiers qui nécessitaient des distanciations encore aujourd'hui inhabituelles dans notre activité, mais aussi, notamment aux fruits de saison, une diminution assez nette des productions liées aux gelées.
Et même si les importations ont repris, nous sommes dans une période où traditionnellement, la majorité des fruits et légumes achetés au détail sont français, car nous sommes l'été autosuffisants. Et ça a un coût, comme l'a rappelé ce matin sur Europe Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
Fabriquer en France coûte plus cher. Tout le monde aujourd'hui parle d'achat local, de manger local. Nous avons des salaires plus élevés, des normes sanitaires plus élevées, des normes environnementales plus élevées. Donc ça représente une partie des surcoûts. C'est certainement aussi un problème de répartition de la marge, avec certainement des marges un peu trop gourmandes de la part de certains distributeurs.
Tous misent toutefois sur un retour à la normale imminent, avec déjà quelques produits au prix très attractif. Quelques exemples, la tomate, le melon ou encore la salade.
Voilà, pour les abricots et les nectarines, il faut attendre un peu. Hein, ça frise les 4 euros en ce moment. Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
François, on termine avec le rugby français qui est au bord de la crise de nerfs.
L'annonce par le ministère des Sports hier d'une jauge de 5000 personnes présentes, pas une de plus dans les stades jusqu'à la fin du mois d'août prochain, a jeté un froid en Ovalie. Le top 14 est au bord de la faillite, une centaine de joueurs au chômage, les salaires qui pourraient baisser de 30%, et certains présidents de clubs redoutent même tout simplement la mort du top 14. Car contrairement au football, qui vit très largement grâce aux droits télé, les clubs de rugby, eux, malgré la manne de Canal+, restent, Cyril de la Morinerie, très dépendants des entrées stades.
Exactement, le public, les loges, les salons VIP, c'est 60% des ressources des clubs de rugby. L'absence de match depuis 5 mois est un tsunami financier, le chiffre de 120 millions d'euros de pertes est avancé. Il a donc fallu tailler dans les effectifs. Les stars comme Wilkinson ou Dan Carter, recrutés à coups de millions, c'est sans doute fini. On doit se serrer la ceinture. À vous, le président du Loup, le club de Lyon, Yann Roubert.
On a sans doute atteint un pic dans les rémunérations des joueurs et dans le niveau de vie du rugby professionnel français. Donc oui, il y a des baisses de salaire qui sont mises en place dans, je crois, l'énorme majorité des clubs. On a fait des efforts dans le recrutement, recruter moins de joueurs que ce qu'on aurait peut-être voulu ou pu faire en conditions normales.
Le rugby français qui avoue vivre au-dessus de ses moyens a pu s'en sortir grâce au chômage partiel et attend avec impatience la reprise de la saison le 4 septembre prochain avec le plus de spectateurs possible.
Merci Cyril de Hamonnerie du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal signé François Claus. François, vous revenez à 18h30 pour le
sans
rappel
faute
des titres tout à l'heure. La météo à présent. Valérie Darmon, 6 départements en vigilance orange canicule, attention.
Absolument, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie avec des températures attendues demain après-midi de 34 à 38 en général, localement 39. La nuit de jeudi à vendredi qui sera chaude, encore plus chaude que la nuit prochaine durant laquelle il fera déjà 22 degrés en vallée du Rhône et sur l'agglomération lyonnaise. Il fera aussi dès demain dans le sud-ouest et les Charentes 40 degrés. Ces températures qui devraient rester très élevées en journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, avant une amorce de rafraîchissement en journée de dimanche. Donc demain, soyez prudents sous les fortes chaleurs du sud-ouest. Hydratez-vous bien.
Merci Valérie. Rendez-vous à 18h30 pour la météo des plages.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 revient avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité.
Elle est en ce moment à l'Assemblée pour la loi de bioéthique encore en discussion. Le gouvernement en état d'alerte hein, avec ses foyers Covid toujours actifs. Et ce vaccin, c'est pour quand? Où en sont les recherches? Je pose la question à Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans 2 minutes sur Europe 1.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral. Vous recevez la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal.
Bonsoir Frédéric Vidal.
Bonsoir.
On vient d'en parler dans le journal de 18h. Est-ce que vous me confirmé. Ce rappel à l'ordre du président Macron ce matin au Conseil des ministres, objectif mobilisation générale contre le Covid, avec peut-être d'autres conseils de défense prévus cet été. C'est ce qu'il a dit, le président ?
Alors, c'est pas du tout un rappel à l'ordre. Hein. C'est en réalité ce à quoi nous sommes confrontés. L'épidémie n'est pas terminée. Et donc, évidemment, il faut que chacun reste extrêmement vigilant à titre individuel. Et puis, bien sûr, le gouvernement est complètement mobilisé de façon à pouvoir prendre les mesures qui s'imposent au cas où l'épidémie évoluerait de façon défavorable. Donc, c'est une véritable mobilisation de l'ensemble du gouvernement s'impose dans cette période.
Notamment la réquisition des laboratoires pour amplifier les tests, c'est ça ?
Alors, en réalité, nous avons la capacité de faire autant de tests que nécessaire, mais effectivement, il faut qu'on puisse encore potentiellement monter en puissance. Mmh. C'est plus de 500 000 tests qui sont faits actuellement.
Il faudrait arriver à combien ?
L'objectif, c'est qu'on ne soit jamais en défaut pour pratiquer tous les tests dont nous aurons besoin. Ouais. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment pour l'arrivée dans les aéroports. Mmh. Et donc, il faut que nous soyons en capacité de pouvoir faire tous les tests dont nous aurons besoin. C'est le cas actuellement, mais il faut qu'on prévoie.
Madame Vidal, vous aviez lancé le CAR, le Comité Analyse, Recherche et Expertise en plein Covid. Il existe toujours aujourd'hui. Le but, c'était quoi ? D'éclairer les pouvoirs publics, c'est ça ?
Alors, en réalité, oui, c'était un comité qui était à la fois auprès du ministre des Solidarités et de la Santé et auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ouais. L'idée, c'était qu'on puisse identifier un maximum de projets qui soient capables de donner des résultats et des solutions le plus rapidement possible. Mmh. Et donc, ce comité a extrêmement bien fonctionné. Il a aussi produit beaucoup de notes de fond qui nous permettent d'une part d'avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé pendant la pandémie et puis qui nous prépare aussi pour le futur, que ce soit en cas de reprise de pandémie, ce qui semble malheureusement se confirmer dans un certain nombre de pays. Mmh. Pour le moment, en France, comme le dit Olivier Véran, nous sommes toujours en phase épidémique et il faut rester vigilant. Et puis qu'ils soient aussi en capacité de proposer des stratégies vaccinales au moment où le vaccin sera rendu disponible, etc.
On en est où justement dans ces vaccins ? Quelles sont les avancées, les solutions possibles en ce moment-là, ce soir ? Sur la table, il y a quoi ?
Alors sur la table, on a un certain nombre de projets de vaccination qui sont en test clinique.
En phase 3, ça veut dire
en phase 1 ou en phase 2. On en a quelques-uns qui sont en phase 3.
Ouais. Lesquels ? Les plus avancés ?
Moderna, par exemple, mais ça n'est que l'un d'entre eux.
Ouais, firme américaine.
Là, c'est qu'on est effectivement un maximum de personnes qui puissent se porter volontaire pour tester ce vaccin en phase 3. Mmh. Et c'est ensuite seulement qu'on pourra lancer les phases de production et puis proposer des campagnes de vaccination.
Et la France dans tout cela, est-ce que les travaux de l'Institut Pasteur ou de Sanofi ont avancé dans son où ?
Bien sûr, ils ont aussi démarré les essais cliniques et les phases cliniques. Et puis en avance de phase, si je puis dire, nous avons commencé à constituer des cohortes de personnes qui se portent volontaires pour la phase 3, qui va nous permettre d'accélérer. Vous savez que la difficulté pour rentrer en phase 3, c'est de recruter suffisamment de volontaires.
Exactement.
Et donc là, nous sommes en avance de phase avec l'identification de milliers de personnes qui accepteraient de se porter volontaires pour tester le vaccin en phase 3.
Et vous, Madame la Ministre, vous dites un vaccin, oui, mais pour quand ?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, il faut une dizaine d'années pour produire un vaccin efficace, que nous avons accéléré les choses au maximum et que donc à partir du moment où une idée de vaccin germe, on a accéléré les choses pour qu'il puisse être produit en 18 mois environ. C'est vraiment le maximum que l'on puisse faire pour garantir la sécurité du vaccin, qui évidemment est absolument essentielle.
Donc ça veut dire rien avant début 2021 ?
On est sur des phases qui effectivement sont sur le premier semestre 2021 ou l'automne 2021. Ça dépend de la mise en place des différents protocoles et justement de notre capacité à lancer les phases 3 le plus vite possible. Mais néanmoins, évidemment, le gouvernement s'est positionné sur l'ensemble des vaccins qui pourraient être disponibles, puisque c'est évidemment très important que nous puissions bénéficier des vaccins dès qu'ils seront disponibles et dès qu'ils seront produits.
Madame Vidal, je reviens à la France. Pourquoi on a le sentiment d'être à la traîne? Est-ce que finalement c'est notre système de recherche qui est trop rigide, avec trop de normes?
Non, je pense que vous avez raison de le dire, c'est le sentiment d'être à la traîne, mais on n'est absolument pas à la traîne. Je prendrai qu'un seul exemple, la France est le premier pays hors Chine à avoir séquencé le génome du virus. C'est parce que cette séquence a eu lieu que les tests ont pu être mis au point dans l'ensemble des pays européens et occidentaux.
Ouais.
Donc c'est aussi, parfois le regard que l'on porte sur notre recherche qui doit être modifié. Nous avons une recherche qui est absolument excellente, nous avons des chercheurs qui sont exceptionnels.
Avec ce plan que vous avez annoncé ces dernières heures, de 25 milliards sur 10 ans, ça va changer les choses?
Oui, bien sûr, ça va changer les choses parce que ça va permettre de redonner de la visibilité dans le temps à l'ensemble du monde de la recherche, et je crois que c'est très important.
Madame la ministre, au moment où on se parle, vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a cette loi de bioéthique encore en discussion à l'Assemblée, avec ce premier article qui ouvre la PMA à toutes les femmes. Vous entendez bien sûr les opposants qui disent c'est la fin du père, c'est la fin de la relation sexuelle, c'est la porte ouverte à la GPA. Vous répondez quoi à cela?
Je réponds que nous avons l'opportunité de donner la possibilité à toutes les femmes de bénéficier d'une technique de procréation médicalement assistée et que c'est évidemment extrêmement important. Je crois que aujourd'hui la société est composée de familles qui sont toutes différentes et qui ont toutes la même valeur, et je crois que on ne doit pas opposer le souhait d'avoir des familles homoparentales, d'avoir des familles monoparentales, d'avoir des familles plus traditionnelles. Je crois que tout ce qui oppose nos concitoyens, en fait, est source de conflits inutiles. Nous avons la possibilité d'étendre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, et je crois que c'est une belle loi pour
cela. Vous assurez à tous les gens, notamment dans votre camp, tous les députés, même dans votre camp, qui sont plutôt pas très chauds, qu'il y a des garde-fous pour éviter justement d'aller vers une possible marchandisation du vivant?
Ah, mais c'est très très clair qu'il ne peut pas y avoir de marchandisation du corps humain. Nous le rappelons en permanence, il ne s'agit pas du tout de parler de gestation pour autrui, mais je crois que les oppositions, justement, en maintenant que PMA pour toutes, c'est la même chose que la GPA, contribuent à fragmenter encore notre société. Et je crois que c'est très important de reconnaître et d'apprécier la société dans toute sa diversité. Vous savez, ce qui construit un enfant, ce qui construit une société, ce qui construit un être humain, c'est l'altérité. Il faut être capable de reconnaître que les autres existent et faire en sorte que nous puissions tous vivre ensemble et être forts dans notre pays.
Merci, merci à vous, Madame la ministre. C'est pas encore les vacances pour vous, finalement, hein?
Non, c'est pas les vacances du tout.
Bon courage, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Grand merci.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Eh bien, le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir, Bernard Sananès de l'Institut ELAB et Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Les premiers pas d'un gouvernement qui reste, on l'a entendu, mobiliser. Vos questions, vos réactions, 39-21, à tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, François Claus.
Masques obligatoires dans tout l'espace public, comme c'est le cas déjà dans 4 communes de Mayenne depuis 2 jours, le ministre Olivier Véran l'envisage, ou en tout cas le préconise, à titre de simple injonction de santé publique pour le moment. Ça pourrait être à terme sous forme de décision locale en fonction de l'évolution de l'épidémie, et une décision qui pourrait s'appliquer très prochainement dans le département du Nord, où l'Agence régionale de santé est inquiète de la recrudescence de l'épidémie dans le pays voisin, la Belgique. Aujourd'hui, si je suis ému par sa disparition, je sais aussi que Jacqueline Sauvage est décédée en liberté, commente François Hollande. C'est lui, l'ex-président, qui décida de la gracier en 2016. 4 ans après avoir recouvré la liberté, celle qui devint le symbole du combat contre les violences conjugales, s'est éteinte à l'âge de 72 ans, après avoir passé en prison 4 des 10 années pour lesquelles elle fut condamnée après avoir tué son mari violent. C'était le plus vaste campement de migrants en France, 2000 personnes, majoritairement en provenance d'Afghanistan et de la Corne de l'Afrique, installées dans les tentes de fortune le long du canal Saint-Denis à Aubervilliers, au nord de Paris. Ils ont été évacués par la préfecture de police. Le préfet de police sur place affirme que tous les migrants ont subi un test Covid. Le collectif Solidarité Migrants, lui, redoute que l'État ne soit pas en mesure de leur offrir un hébergement et que beaucoup d'entre eux se retrouvent très vite à la rue. La Bourse de Paris en hausse de 0,60% à 4 958 points.
Merci beaucoup François. Prochaine édition complète sur Europe 1, 19h. La météo des plages, Valérie Darmon. Allez, on va sur les plages de la Côte d'Azur avec des nuages demain.
Oui, quelques nuages. Bon, ça ne va pas entamer l'impression de beau temps non plus. De toute façon, c'est là que vous allez respirer le mieux, avec 31 sous les parasols et une eau qui se réchauffe. Hein. 22 dans l'Hérault, 23 en Roussillon, 24 dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, 25 dans le Var et 26 dans les Alpes-Maritimes, avec très, très peu de vent. Très beau temps aussi le long de la Manche, depuis Dunkerque jusque sur Brest, avec des valeurs en hausse également, bien évidemment. 34 annoncés à Saint-Malo, 28 à Deauville, une eau qui se réchauffe également entre 19 et 20 degrés et qui est évidemment très calme. Très beau temps sur l'arc atlantique. De toute façon, c'est le dénominateur commun entre 31 à Lorient et 36 à Biarritz. Voilà les températures de l'air. Et pour l'eau, entre 17 et 24 degrés. 24 pour la côte basque, 21 en Gironde, 21 en Charente et 19 en Vendée.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1. Et dans votre grand journal du soir sur Europe 1, on décortique l'actu avec les grandes voix. Thierry Dagiral, vous êtes avec Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, et Bernard Stananès, président de l'Institut Elab.
Et on est ravis de vous recevoir sur Europe 1. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Mobilisation générale du gouvernement sur le Covid. Olivier Véran était, on l'a dit, dans les Yvelines cet après-midi. Et si on allait vers le port du masque en extérieur, écoutez-le.
L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais, depuis quelques jours, un risque sérieux de transmission aérosol du virus, ce qui veut dire que l'action en fonction...
Bernard Sananès, c'est la preuve, ça.
Bah écoutez, en tout cas, ça paraît surprenant.
On sent une agitation.
On sent, j'allais dire, pour une formule que les juristes connaissent, ouais, l'idée d'un changement de jurisprudence. C'est, oui, vrai que c'est un peu la première fois que l'on entend...
Il y a eu le off d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres, visiblement, ce que nous a confirmé la ministre Vidal à l'instant.
Mais c'est vrai que cette idée de rendre obligatoire le masque dans l'espace public et de dire effectivement que de reprendre la recommandation de l'OMS, mmh, sur le risque par aérosol est nouveau et donc va sans doute inquiéter considérablement les Français. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a un risque d'incohérence parfois perçue entre certaines mesures. Hier, par exemple, on a appris, alors dans le cas avec un respect de certaines jauges, que les foires et les salons allaient pouvoir, en grande, exact, partie, de manière très encadrée, reprendre. Et on se dit, mais comment les foires et les salons peuvent reprendre si on doit porter un masque? On a vu des images alors, de manifestations qui n'étaient pas autorisées, notamment de soirées nocturnes, hein, ouais, de soirées pour les jeunes, où là, vraiment, on voyait que les barrières de sécurité, les gestes barrières n'étaient pas respectés. Donc, le risque pour le gouvernement, ce n'est pas tant de se prononcer, mmh, de manière aussi ferme, c'est qu'il y ait un soupçon d'incohérence.
Un manque de message clair, Bruno Dive, selon vous aussi?
Oui, je crois qu'il y a surtout une inquiétude du gouvernement qui a été, si j'ose dire, vacciné au mois de mars. Mmh. C'est le fait de réagir un peu trop tard, mmh, et donc d'avoir un train de retard. On voit aujourd'hui Éric Ciotti dans une interview au Monde, qui est président de la commission d'enquête, hein, et qui dit que, bon, sans être trop accusatoire, il dit que le confinement, il aurait eu lieu une semaine plus tôt, ça aurait quand même été mieux. Donc, on voit bien que le gouvernement ne veut pas à nouveau avoir un train de retard et qu'il envisage un certain nombre de mesures. Évidemment, il n'est pas question, en tout cas pour le moment, et je pense que ça ne se fera pas de manière générale de reconfiner, mais un certain nombre de mesures plus généralistes, mais comme le dit Bernard, ils tâtonnent, quoi. Ouais. On a l'impression, oui, que ce sont des ballons d'essai. On a vu ça, Emmanuel Macron.
Il ne faut pas trop faire peur, mais en même temps, il y a, voilà, des choses. Il y a 143 foyers en France à l'heure où on se parle.
Oui, donc, on n'est quand même pas dans la situation du mois de mars. Hein.
Et foyer, mais, ça veut dire qu'il y a contrôle. Donc, c'est,
voilà,
plutôt la bonne nouvelle.
Vous dites, il y a une inquiétude. Ouais. Je crois qu'il y a d'abord une inquiétude du gouvernement, ouais, sur la situation sanitaire, et c'est bien légitime, mais aussi l'inquiétude d'être accusé une nouvelle, ouais, fois d'avoir réagi trop tard.
Mais vous, Bruno, qui représentez ce soir Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine, on le sait, est concernée, hein, par ces foyers. Vous sentez auprès des autorités une tension, une mise en place, une préparation ?
Alors non, enfin, de ce qu'on voit, de ce que je vois dans les régions, on est moins concerné, nous, par exemple, que la Bretagne, où il y a eu ce qu'on appelle quelques clusters. Ouais. Bernard l'évoquait à l'instant, notamment sur des problèmes sur la presqu'île de Quiberon. Là, le sujet, plutôt les incendies de forêt en ce moment, qui est plus traditionnel. Mais il y a une vigilance qui est forcément peut-être plus forte qu'au mois de mars, parce qu'il y a tous les touristes, il y a les estivants, il y a plus de monde. Et puis, il y a le fait qu'en effet, ce sont des régions, l'Ouest et le Sud-Ouest, qui ont été relativement épargnées par l'épidémie au plus fort du pic et qui maintenant peuvent être un peu plus touchées.
Un brassage des populations avec les vacances, etc. C'est ça le risque. Le risque, c'est dans les 15 prochains jours.
Le brassage et le retour ensuite dans les régions d'origine des vacanciers que nous sommes ou que nous serons. Et évidemment, c'est un grand risque. Donc Bruno a raison, le gouvernement ne peut pas donner l'impression que lui aussi, il part en vacances sans avoir bien anticiper ce risque, d'autant que, alors Olivier Véran a refusé de parler de deuxième vague à ce stade, et effectivement, il doit avoir des chiffres pour ne pas utiliser ce terme-là, mais le gouvernement prépare par ailleurs aussi, on le sait, un plan de relance, plan de relance économique qui doit être annoncé sans doute autour de la fin août, et c'est vrai que s'il y avait des risques forts épidémiologiques, ça remettrait aussi un peu à mal tous les efforts d'une reprise qui, en France, apparaît pour l'instant parfois assez soutenue dans certains secteurs.
Tout faire pour éviter un nouveau confinement dans tous les cas de figure.
Exactement. Le mot reconfinement n'est pas tabou dans la voix de Jean Castex, de reconfinement local. On peut arriver à ça, Bruno Dive ?
Oui, peut-être, oui. Ce qui serait un paradoxe.
Comme on le voit d'ailleurs.
L'ex-monsieur déconfinement devienne le monsieur reconfinement. Mais je pense que s'il y a un reconfinement un jour, il sera local. Mais après tout, ça a déjà été le cas. Dans l'Oise, vous vous souvenez ? Aux Contamines, dans la Haute-Savoie, des petits foyers de confinement avant le confinement général. Mais je ne pense pas, ne serait-ce que pour des raisons économiques, qu'on retourne vers un confinement généralisé.
Avant de marquer une pause, on va tout de suite prendre Antoine au 39-21. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous nous appelez de Toulon.
Exactement, voilà.
Et l'on vous écoute.
Voilà. Donc moi, j'aurais une question, disons, relativement simple à poser.
Allez-y.
Quand on écoute un petit peu les médias, radio ou autres, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau deuxième vague qu'on ne veut pas vraiment citer, mais qu'on n'arrête pas d'en parler.
On l'évoquait,
Est-ce que les différents ministères, comme par exemple la santé, l'intérieur ou les affaires étrangères, est-ce qu'ils ont envisagé une coordination ou une action commune entre ces différents ministères de façon à que tout le monde travaille dans le même sens et dans une certaine cohérence?
Allez, voilà, Bruno Dive. Bruno Dive vous a écouté et vous répond, Antoine.
Je crois qu'elle est plus qu'envisagée et elle est effective. Et heureusement, nous avons d'abord, il y a un Premier ministre qui est sorti de l'ombre en étant une espèce de coordinateur du déconfinement, on vient d'en parler. Donc il a l'habitude de faire travailler un certain nombre de ministères ensemble. Et puis de toute façon, c'est le rôle du Premier ministre de faire travailler les différents ministres ensemble. Et il y a, je le rappelle, un conseil de défense, le nom exact m'échappe, de défense sanitaire.
C'est ça, voilà.
Non, parce qu'il y a le conseil de défense écologique, mais il y a un conseil qui se réunit
régulièrement, y compris même à distance.
En général à l'Élysée. Voilà.
Et qui va pouvoir se réunir pendant l'été.
Notamment les ministres que monsieur a cités.
On peut bien sûr, il y a eu de nombreuses critiques, Bruno évoquait la commission parlementaire, il y a eu de nombreuses critiques sur la manière dont le gouvernement a géré le pic de la crise. Un peu moins d'ailleurs, Éric Ciotti dit que sur le déconfinement, il y a moins de critiques à faire. Mais on peut aussi, en dehors de toute considération politique, espérer qu'il y ait ce qu'on appelle un retour sur expérience et que les erreurs qui ont été commises face à une crise qui a, c'est vrai, surpris par son ampleur et sa gravité tout le monde, qu'on ait appris de ces crises et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Et c'est un enjeu, vous savez, pour toutes les entreprises, par exemple, qui sont exposées à ce qu'on appelle la communication de crise. Toutes les entreprises sont exposées à ces situations. Mais le sujet, c'est de savoir comment on progresse pour éviter les prochaines crises.
Alors, le gouvernement et l'ombre du Covid sur cet été un peu particulier. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1 avec vous. 39-21, tout de suite.
Europe 1.
18h41, le débat des grandes voix sur Europe 1 se poursuit dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagirel. Autour de vous aujourd'hui, Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, et vos réactions au 39-21.
Et on va s'arrêter un instant sur la communication, parce qu'on en parlait à l'instant avec Bernard Sananès, on vous raconte un peu les coulisses, mais c'est vrai, comment communiquer? On a le sentiment que le gouvernement fait beaucoup, qu'il y a beaucoup de sorties, Olivier Véran, dans l'après-midi, etc. Est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut être présent sur le terrain? Trop? Pas assez? Qu'est-ce qu'on fait, Bernard Sananès?
Alors, vous savez, d'abord, il faut se dire, on intervient dans un contexte qui est particulier, c'est un contexte qui est marqué par la défiance. La parole publique a été extrêmement mise à mal pendant cette crise. On a, par exemple, plus d'un Français sur deux qui ne croit pas tout simplement aux statistiques sur le coronavirus ou aux propos des chercheurs.
De
c'est dans ce registre
ou de...
que l'on a, qui est de se dire, la parole publique, on la met à distance. Donc, comment être entendu? Il y a la question du registre, de la tonalité de la communication. Et c'est vrai que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas été dans cette période, il l'avait été il y a deux mois, sur une communication, j'allais dire, qui inquiète, qui pose de manière très dure, par exemple, les risques des soirées pour les jeunes. Et c'est très dur de communiquer vis-à-vis des jeunes. Par exemple, à l'inverse, ça a été fait en matière de sécurité routière. On a choisi, au cours des dernières années, des campagnes de sécurité volontairement très impactantes, qui ont eu, on le sait, des effets, parce qu'elles ont saisi littéralement ceux qui les regardaient et qu'elles ont eu un impact. Donc, comment parler aux différents publics, comment remettre en question le danger réel, notamment pour les jeunes, c'est un gros enjeu. Alors pour répondre à votre question, je ne pense pas que le gouvernement en fasse trop pour l'instant, mais par contre, il doit continuer à être extrêmement présent et extrêmement clair dans sa communication dans les prochains jours qui sont décisifs, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Bruno Dive, on voit par exemple les autorités belges qui ont pris de nouvelles mesures. Elles aussi désormais, pendant les 4 prochaines semaines, les Belges ne pourront fréquenter que 5 personnes extérieures à leur foyer. Est-ce qu'on peut arriver à prendre des décisions aussi compliquées à prendre?
Oui,
en France,
je ne sais pas comment vont faire les autorités belges pour aller compter ce que chaque citoyen belge, le nombre de personnes que fréquente chaque citoyen belge. Ça me paraît absolument orwellien, cette affaire. Ouais. Ou alors on surveille les gens, en effet. Mais cela dit, on voit bien autour de nous, là, on a quand même une impression d'égout qui se resserre.
C'est ça,
la France,
c'est
espèce, encore une espèce en Europe, en ce moment, d'un îlot relativement épargné. Et puis, bon, il y a l'Espagne, la Catalogne, évidemment, où on nous dit de ne pas aller. La Belgique, vous venez d'en parler. L'Allemagne, où on voit une petite recrudescence. Donc, on sent bien qu'à nouveau, les taux se resserrent un peu. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse prendre ce genre de mesures... Qui serait coercitif. Ou alors, il faut faire appel au civisme de chacun et éviter de rencontrer trop de monde. Mais avec le masque, il y a quand même une grande différence avec le mois de mars, c'est qu'aujourd'hui, on a des masques. Et l'autre différence, c'est que le gouvernement nous dit qu'il faut en porter, alors qu'il y a 6 mois, il nous disait que ce n'était peut-être pas nécessaire parce qu'il n'y en avait pas. Mais il y a quand même, à mon avis, le port du masque, et là, je crois qu'il faut insister là-dessus, en effet, dans la communication, et ça nous concerne aussi, nous médias. Le port du masque est quand même vraiment le minimum et évite un certain nombre, tout un tas d'autres mesures beaucoup plus contraignantes, à mon sens.
On termine avec vous, Bernard.
On observe d'ailleurs, on le voit bien dans les rues, le masque est revenu. On ne voyait plus il y a 3 semaines. On voit bien que depuis 15 jours, le masque est revenu dans les commerces, dans les restaurants, dans les espaces publics, et qu'il y a quand même un civisme. Après, il y a cet arbitrage de on est en vacances, on a connu un moment difficile,
c'est
tout
compliqué.
À fait normal, envie d'en
bien
profiter,
sûr,
mais
bien
le
sûr.
Risque est là et le gouvernement a raison de le rappeler, de le marteler.
Allez, on passe à cette deuxième partie des grandes voix avec vous, on va faire un petit bilan, ça fait quoi maintenant, 15 jours, 3 semaines qu'on a ce nouvel gouvernement avec 11 nouveaux secrétaires d'État depuis dimanche soir dernier. Allez, on s'arrête un instant sur le cas Gérald Darmanin, il en fait trop. Je crois qu'il en est à 20 sorties depuis qu'il est à l'intérieur.
Bah, il fait Gérald Darmanin.
Tous les jours sur le terrain, trop.
Il fait ce que,
avec des couacs.
Il fait ce que
Bruno
lui a appris son premier patron, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy.
C'est ça.
Il ne faut pas oublier qu'il a été le directeur
dans
de campagne
de Nicolas Sarkozy
aux primaires de la droite, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans. Et donc, il fait comme lui, comme Manuel Valls, présence sur le terrain,
mais trop,
activisme.
Trop, par exemple, hier, devant la commission des lois, quand il dit, quand j'entends violence policière, je m'étouffe, référence, bien sûr.
Il est, comme disait Louis XIV, il est toujours malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop, justement. Mais
Il y a eu deux, trois récentes sorties avec deux, trois polémiques derrière. Est-ce que c'est vraiment utile en termes de...
Évidemment, de toute évidence, c'est un mot malheureux. Il ne l'a pas fait exprès, je pense. On ne va pas l'accuser de ça. Mais ça, c'est, je crois que quand on est un peu sous pression, il y a forcément une espèce de, d'inconscient qui ressort. Et le mot, vous savez, c'est comme Jean-Claude Gaudin qui avait dit après l'affaire de la rue d'Aubagne, je suis effondré. Donc il y a des espèces de lapsus qui sont commis quand quelqu'un est sous pression. Donc on voit bien par ce propos que Gérald Darmanin est sous pression, il en fait trop. Je ne sais pas, il faut quand même renouer le lien, au moins avec la police, déjà, qui a été quand même
sérieusement
abîmé. Ce qui a
été fait dans les premiers pas, avec en plus des annonces, avec de l'argent.
En plus, il y a des annonces, il y a un peu de concret.
Mais ça, justement, ça vient un
sur
peu
le terrain.
Perturber le...
À force de parler, hier, il était entendu par la commission
des lois.
Donc il fallait bien qu'il s'y rende, donc il parle. Bon, il a commis ce lapsus. Moi, je ne dirais pas qu'il en fait trop. Par contre, c'est vrai qu'il est, comme il est sous pression, et ça, c'était une grande leçon de Sarkozy, quand on est sous pression sur un sujet, il faut créer l'actualité ailleurs. Donc, il faut faire la météo, comme il disait. Et donc, Gérald Darmanin, il essaie de faire la météo sur un autre sujet que son affaire, et il a du mal.
Bernard Sanalès.
C'est compliqué pour Gérald Darmanin, d'abord parce qu'il y a cette affaire, effectivement, qui... sur lequel il est interrogé à chacune de ses sorties. Et deuxièmement, il faut le dire aussi, parce que pendant les premières années du quinquennat, le sujet de la sécurité, je ne dis pas...
Le
n'a
fameux
pas
régalien,
été, voilà,
fait,
il n'a pas été porté comme une priorité...
C'est un enjeu pour la présidentielle en plus qui arrive et un espace à occuper, bien sûr.
De l'exécutif. Donc je dirais, il faut qu'il rattrape un peu le temps perdu, qu'il montre que cet exécutif a compris que l'enjeu de sécurité... Et d'ailleurs, vous savez, on dit souvent... la sécurité, c'est un thème de droite. C'est vrai que les électeurs de droite sont très sensibles, mais la sécurité, c'est un thème qui, dans l'opinion, questionne, concerne 70 à 80% des Français, par exemple, notamment dans les milieux populaires. Donc ce n'est pas un thème clivé politiquement. Il y a des réactions politiques différentes. C'est vrai que l'enjeu est important pour Gérald Darmanin, mais c'est vrai aussi que c'est extrêmement difficile pour lui. La comparaison, finalement, avec Nicolas Sarkozy, elle n'est pas forcément à son avantage. Pourquoi ? D'abord parce que la société est plus violente qu'il y a 15 ans. Et donc, les phénomènes ne sont pas les mêmes. On le voit bien, on le voit dans les images, on le voit tous les jours. Et deuxièmement, là aussi, la défiance à l'égard de la parole publique fait qu'on a mis une distance. Quand Nicolas Sarkozy ou Charles Pasqua s'exprimaient, ces paroles-là avaient du crédit. On disait « ils vont le faire ». Aujourd'hui, l'opinion est telle face à la parole de tous les hommes politiques, ce n'est pas simplement vis-à-vis de Gérald Darmanin, se disent « ok, il parle, mais qu'est-ce qui va changer vraiment ?»
Qu'est-ce qui va changer vraiment ? C'est la question qu'on va se poser dans un instant. A tout de suite, vous restez sur Europe 1. Merci à vous.
La suite du débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral, Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, Bernard Sananès, président de l'Institut Elab, et vous au 39-21.
Et on parle ce soir et maintenant de ces trois premières semaines de ce gouvernement Castex. On va parler surtout de l'après et de la rentrée dans un instant. Alain nous a appelé au 39-21. Bonsoir Alain, vous nous appelez de la Baule.
Bonsoir Europe 1 et bonsoir les grandes voix.
Chanceux
merci
vous êtes.
De votre émission.
À la Baule.
Absolument, il fait très beau à la Baule. Écoutez, j'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt. Je m'interroge quand même sur l'ancrage très droitier de ce gouvernement au terme de ces trois premières semaines. J'en veux bien sûr l'origine politique de Jean Castex, les propos récents de Gérald Darmanin, dont bien sûr j'entends qu'il est sous pression, comme vous l'avez dit, mais il y a quand même l'omniprésence de la thématique sécuritaire dans le discours. Il y a un certain nombre de prises de position qui me semblent effectivement très ancrées, comme ma droite. Est-ce que c'est pas finalement là que se trouvent les réserves de vote en perspective de l'élection présidentielle à venir? Est-ce que c'est pas un choix stratégique de ce gouvernement? Et en même temps, parce que c'est vraiment sur le « en même temps » qu'a été... constitué que Macron a été élu, il y a quand même des signes ostensibles vers les écologistes avec la nomination de Barbara Pompili. Donc, quelle est la cohérence finalement idéologique de ce gouvernement entre un ancrage très à droite et puis d'autre part des signes ostensibles vers l'électorat et l'écologiste?
Allez, Bruno Dive fait une première réponse. Alain, merci.
Oui, monsieur a raison. Il y a visiblement l'offensive vis-à-vis de la droite se poursuit parce que c'est comme ça qu'Emmanuel Macron pourra se qualifier au second tour.
Exact.
Et donc, probablement, avec de bonnes chances, s'il est qualifié, d'être réélu. Donc, il poursuit cette offensive par des nominations qui ne sont pas seulement celles des ministres, mais aussi beaucoup de conseillers dans les différents ministères et par la politique, on vient d'évoquer la sécurité. Monsieur a fait une excellente analyse. Il tient le gouvernement tient
Est-ce que c'est viable finalement? Est-ce qu'on peut faire une relance économique à la rentrée?
Oui, parce
qu'on va se positionner à la rentrée.
Il y avait l'interview de Bruno Le Maire dans le journal du
Dimanche
qui explique tout à fait que la relance. Un facteur de relance, c'est la transition
écologique. Ouais.
Et on peut faire de l'écologie sans être complètement à gauche aussi.
Ouais, bien sûr.
On peut l'être un peu, comme les Barbara Pompili, qui de temps en temps donne des signaux, comme je l'ai fait chez vous, là, hier ou avant-hier, en prenant un peu ses distances avec Darmanin.
Tout à fait.
Mais on n'est pas obligé non plus. On voit bien qu'Europe Écologie, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ne font pas que de l'écologie, qui font du féminisme, qui font du révisionnisme historique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il peut tenir les deux bouts
de
la chaîne.
Merci Alain de nous avoir contactés depuis la Baule. Merci beaucoup. Bernard Sananès, justement, ça sera l'objet de cette rentrée. Est-ce qu'on peut faire à la fois une relance économique, avoir les plans sociaux, maintenir l'emploi, et puis de l'autre, en effet, concéder pas mal de choses à l'écologie? Ça coûte cher et il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre.
C'est vrai, mais c'est une forte attente. Hein. On le voit bien dans les enquêtes que l'on a fait après le Covid. On vient de sortir une enquête qui s'appelle Reboot ou Reset. Est-ce qu'on veut redémarrer ou réinventer? Et on voit bien qu'il y a bien sûr, vous avez raison, cette inquiétude face à la crise économique. Les Français sont très inquiets de perdre leur emploi, inquiets de voir leurs revenus baisser, mais qui n'ont pas forcément envie que ça redémarre quand même comme avant.
Ouais.
Ils ont intégré, pour 7 Français sur 10 par exemple, qu'il faut changer de modèle et qu'il faut intégrer la dimension écologique. Mais s'installe un nouveau risque, une nouvelle peur, c'est que finalement l'écologie soit une nouvelle fracture. Non pas entre ceux qui voudraient et ceux qui ne voudraient pas, parce qu'aujourd'hui on a 8 Français sur 10 qui considèrent qu'il est urgent d'agir, mais entre ceux qui considèrent qu'ils peuvent, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils en ont ce qu'on appelle le capital socioculturel, et ceux qui se disent, nous, on ne pourrait pas parce que notre emploi va être menacé, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat pour suivre. Et si l'écologie devenait une nouvelle fracture, à ce moment-là, ce serait évidemment un risque extrêmement fort. Donc voilà, l'attente de la société, elle est assez claire en la matière.
On finira là-dessus, messieurs, mais changer ce logiciel à 600 jours, moins de 600 jours maintenant de la présidentielle, soyons honnêtes.
Oh, c'est pas un changement complet de logiciel, parce que n'oublions pas quand même la nomination de Nicolas Hulot dans les premiers temps du quinquennat.
Oui.
C'était quand même un signal fort, même si les choses n'ont pas suivi suffisamment, en tout cas aux yeux de Nicolas Hulot. Et d'autre part, on voit bien que la politique, les signaux envoyés à la droite, ça ne date pas du remaniement.
Bien sûr. Déjà le cas. Mais l'écologie, les territoires, la planète des territoires, tout ça, c'est vraiment, c'est gros à mettre en place.
Je dirais qu'il y a un changement de méthode, plus de dialogue.
Et va se poser une question, c'est la question du calendrier, vous avez raison, et de se dire, est-ce qu'on peut avoir des résultats dans cette période?
Et pour arriver à la
mots,
campagne.
Vous parliez tout à l'heure des mots, vous disiez, est-ce que ce ne sont que des paroles? Est-ce qu'il va y avoir une traduction concrète? Et c'est ça, en fait, sur quoi se jouera sans doute une partie de la campagne électorale. Est-ce que ce gouvernement, cet exécutif, a réussi à obtenir, dans des délais qui étaient courts cette fois-ci, des résultats concrets pour les Français?
Bernard Sananès de l'Institut ELAB ce soir et Bruno Dive de Sud-Ouest. Grand merci à vous deux, messieurs. Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal d'histoire, Thierry
Dagiral. Dans un instant, le journal de 19h, on sera dans le Nord avec ce regain de contamination au Covid. Les autorités se préparent.